Genèse chapitre 12, les versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham : Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Et comme en écho à ce texte, un texte plus proche de nous dans le temps, qui nous parle de l'entrée en terre promise, ou plutôt juste avant l'entrée en terre promise, c'est au chapitre 30 du Deutéronome, les versets 14 à 20. Il s'agit des paroles de Dieu transmises par Moïse au peuple d'Israël avant l'entrée en terre promise. Oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, ta parole est notre vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. Choisir la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, choisir la vie? Est-ce qu'on n'est pas monté vivant d'origine, si j'ose dire? Être vivant, ça n'est pas comme une option qu'on pourrait rajouter à un pack d'origine, comme la clim ou une meilleure sono quand on achète une voiture. Choisir la vie. Et si je pense à une nouvelle voiture, c'est qu'il m'est arrivé dans mon premier poste de vivre une relation tout à fait privilégiée avec la voiture de fonction de la paroisse. Lorsque je mettais le contact, elle se mettait à me parler. Et avant que vous ne vous inquiétiez pour ma santé mentale, je me hâte d'ajouter qu'elle ne me parlait pas de la pluie et du beau temps. Elle se contentait de me dire, mais tous les matins, avec une belle constance, prévoir la révision. Et au bout de quelques semaines d'inaction de ma part, elle s'est mise à me dire, faire la révision. En l'absence de réponse, la voiture avait changé de disque, mais ça restait assez basique. Et malgré ma meilleure volonté et une certaine propension à aimer raconter des histoires, je ne peux pas dire que j'avais avec la voiture de la paroisse des conversations passionnantes. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je connais des gens qui ont, avec Dieu, la même relation que j'entretenais avec cette voiture. Ils se sont habitués à tourner la clé et à entendre toujours la même chose et à appeler ces paroles « paroles de Dieu ». Au fond, qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté de la conversation ou pas, ça ne les intéresse pas beaucoup. Que Dieu les conduise là où ils veulent aller, ça les intéresse. Comme un Dieu voiture, une extension de soi-même, qui permet d'être plus efficace peut-être, plus rapide, pour aller quelque part. Avec des règles claires, qui s'appliquent systématiquement et à tout le monde. Mais au fond, juste un objet qu'on peut ignorer quand on n'en a plus besoin. Mais l'essentiel de notre vie, on ne le passe pas en voiture, on le passe à dormir, à manger, à discuter, à partager, à rire, à pleurer avec d'autres. Tout ce temps-là, on ne le passe pas en voiture. Et de même, pour ces gens, une partie limitée seulement de leur temps est passée avec Dieu, quand ils y pensent ou quand ils en ont besoin. Mais en réalité, une voiture ne fait pour vous que ce que vous faites vous-même. C'est vous qui la conduisez, c'est vous qui mettez de l'essence dedans. C'est probablement vous qui l'avez choisie et achetée. Vous lisez ce qu'elle vous dit, le cas échéant. Mais aussi, vous choisissez de l'abandonner pour en acheter une autre. Et même si on met beaucoup de nous, parfois, dans nos véhicules, ça n'est jamais qu'un objet. Un prolongement de nous-mêmes. Autrement dit, ça n'est pas Dieu. À la limite, c'est une idole qui ne vous sert que parce que vous vous en servez vous-même. Mais une idole qui ne parle pas vraiment, qui ne promet pas, qui n'entre pas en relation, mais qui reste un objet. Et pourtant, un objet qui tient ses promesses, parce qu'il fait ce pourquoi il est fait. Mais Dieu ne fonctionne pas comme une voiture. Dieu ne fonctionne pas comme un objet. En fait, aucun humain sur Terre ne peut dire comment fonctionne Dieu. Mais nous pouvons voir des effets. Dieu, c'est celui qui nous donne non pas ce que nous attendons de lui, comme une fidèle mécanique qui fonctionnerait sans surprise, c'est plutôt celui qui nous donne ce que nous ne savions pas quoi attendre. Il nous donne je ne sais quoi. Il nous donne un appel. Et je crois que le passage du Deutéronome que nous avons lu ce matin parle de ça, d'un appel. Parce que l'envoi vers la terre promise, c'est un appel à la vie. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes, alors tu vivras. C'est comme si deux choix étaient posés devant nous. D'un côté, voir Dieu comme une voiture qui obéit à notre volonté, qui nous protège pour nous rendre plus forts, plus efficaces sur un chemin qui est le nôtre. Un chemin que nous avons choisi, sur lequel nous sommes au volant. Et de l'autre côté, quelque chose d'infiniment plus difficile, voir Dieu comme quelqu'un. Comme quelqu'un à aimer, à accompagner sur un chemin, à écouter. Quelqu'un qui nous surprend, comme nous surprend une personne que nous aimons, non pas parce que nous la connaissons par cœur et que rien de nouveau ne peut jamais venir d'elle, mais justement parce qu'avec cette personne, la nouveauté est toujours au détour du chemin. Avec qui la conversation est un émerveillement parce qu'elle nous ouvre un monde qui n'est pas le nôtre, une imagination qui change notre perspective et un courage qui nous fait avancer. Un dieu voiture d'un côté, ou un dieu qui parle, un dieu aimé, celui dont la parole vient nous éveiller à autre chose qu'à nous-mêmes et notre quotidien, autre chose que le déjà connu et le déjà vu. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. C'est un choix entre la vie et la mort. Encore faut-il comprendre de quoi on parle quand on dit « vie » et quand on dit « mort ». Parce que nous le savons, dans les circonstances difficiles de notre vie, et nous sommes tous passés par là, nous nous trouvons comme morts. Et nous savons qu'il suffirait parfois d'un pas pour passer à autre chose, pour qu'un avenir neuf s'ouvre devant nous. Pas juste un avenir qui serait la continuité du passé, mais vraiment quelque chose de nouveau. Et pourtant, nous restons entre le passé qui nous retient et un avenir que nous ne voyons pas. Qu'est-ce qui peut nous offrir de faire ce pas décisif? Qu'est-ce qui nous permet de vraiment choisir la vie? Est-ce qu'on peut choisir la vie? À vrai dire, quand on connaît un peu la Bible, on peut se demander s'il s'agit vraiment d'un choix. En tout cas pour Abraham, le premier des patriarches, à qui Dieu s'adresse alors qu'il n'a jamais entendu parler de lui, et qu'il l'envoie hors du pays de ses ancêtres, hors de sa vie, ça n'est pas un choix. C'est plutôt comme si Dieu lui disait « va, va on ne sait où ». Tu quitteras tout ce que tu connais, tu trouveras on ne sait quoi. Quelle idée de répondre à cet appel. Abraham, sans doute, se croyait vraiment vivant, et voilà qu'il est lancé sur les routes avec une parole qui vient lui dire qu'en fait, il n'était pas vraiment vivant et que la vie se trouve de l'autre côté, du côté d'une nouveauté radicale que rien ne permet d'imaginer. Et il se risque à faire ce premier pas. Avec quoi? Avec simplement une confiance qui s'installe dans une voix inconnue, inconnue mais qui l'appelle par son nom, et qui s'adresse à lui en tant que personne. Une voix qui appartient à quelqu'un. Et qui s'adresse à lui comme une vraie personne. Pour reprendre la métaphore de la voiture, la voix entendue par Abraham n'est pas un message décidé d'avance, annoncé par une machine, quel que soit le conducteur de la voiture ce jour-là, juste parce que le kilométrage a dépassé une certaine limite. La voix de Dieu, c'est la voix de quelqu'un qui se fait le passager de notre histoire, qui vient l'habiter à nos côtés, y risquer des plumes avec nous. C'est quelqu'un qui engage sa parole et son espérance. Quelqu'un qui nous dit qu'un autre monde est possible, qu'un autre monde existe et qu'il est là, ouvert devant nous, au détour d'un compagnonnage avec lui. Qu'est-ce qui permet de faire confiance à un tel appel ? Parce que s'il s'agit vraiment de confiance, et au fond, c'est ça qui compte, la confiance en celui qui appelle. Savoir que cette voix qui surgit dans notre vie est vraiment celle d'un Dieu qui veut notre bien. Et ce lien de confiance avec lui, il est à la fois très ténu, c'est sa grâce et c'est notre foi. Et en même temps, c'est ce qu'il y a le plus solide dans notre vie, ce qui permet de faire ce premier pas. Va, on ne sait où tu trouveras, on ne sait quoi. Mais ce tu ne sais quoi, c'est vraiment la vie. C'est une vie qui s'ouvre pour de bon et qui laisse derrière, du côté de la mort, tout ce qui pèse, tout ce qui entrave. Cette vie nouvelle est une vie éveillée à la curiosité. La curiosité de voir de quoi le chemin sera fait. Une curiosité qui lance Abraham sur son chemin et du coup toute l'humanité avec lui. La curiosité aussi du peuple d'Israël qui s'apprête à rentrer en terre promise, sur le point de quitter l'errance du désert. Et pour nous, nous le rappelons dans ce temps de carême, le temps qui précède Pâques, la curiosité de voir comment nos vies seront ressuscitées lorsque, année après année, nous célébrons Pâques pour dire qu'avec le Christ, vraiment une vie nouvelle a surgi. Il s'agit de vivre de cette curiosité et laisser derrière tout le reste. C'est un passage. C'est un passage, mais nous sommes précédés. Car quelqu'un d'autre avant nous s'est aventuré dans cette terre inconnue. Quelqu'un d'autre est entré dans ce monde-là. Ma voiture ne me connaissait pas. Celui qui nous appelle nous connaît vraiment. Il nous appelle simplement. Et il n'y a aucune condition à remplir. Juste faire confiance. Faire confiance que ce qu'il nous donne nous emporte en sa compagnie vers le bonheur et vers la vie. Ce qu'en d'autres textes de la Bible, on appellerait le royaume, c'est-à-dire là où nous sommes précédés par une parole qui ouvre un avenir, même au cœur de la mort. Une bénédiction, même au cœur du malheur. Alors choisir la vie, ça n'est jamais qu'une décision à prendre, de se laisser accompagner par quelqu'un, de laisser vraiment résonner cette parole qui nous est adressée. La Bible tout entière résonne de cette parole, adressée par Dieu à des vivants, à ceux qui ont entendu quelque chose résonner dans leur vie, qui de mort qu'ils étaient les a rendus vivants. Et c'est au cœur de la Bible, au cœur de ces histoires bien humaines, écrites par des humains, vraiment humains, qu'un écho de cette parole de Dieu vient nous appeler à la vie. C'est au cœur de la réforme protestante. Dire que la parole de Dieu se donne à entendre par des voix bien humaines, dans des histoires humaines, et que rien ne peut prendre la place de la voix de Dieu qui résonne pour nous ainsi dans notre vie. Autrement dit, rien ni personne n'a le droit de substituer à cette parole vivante une parole toute faite, un idéal déjà construit. Le royaume où le Christ nous précède et nous accompagne nous est donné comme une vraie vie, un vrai bonheur, une bénédiction. Ce n'est pas une parole mécanique comme toutes ces paroles qui encombrent notre monde. C'est un je ne sais quoi qui nous est adressé. et qui vient ouvrir une nouvelle perspective de vie, même là où nous étions morts. Que cette confiance, cette curiosité nous soit donnée vraiment pour en vivre vraiment.